le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Diecki.
Dans ce JDA, nous nous poserons trois questions. La première, les dernières attaques de l'OTAN sur la Libye sont de plus en plus précises. Kadhafi serait-il visé personnellement alors qu'il préconise des négociations pour sortir de la crise? Et puis, la Suisse vient d'annoncer formellement le gel des avoirs des anciens chefs d'État Hosni Moubarak et Ben Ali. Même les biens de Muammar Kadhafi qui est encore aux affaires sont gelés. Comment interpréter ces mesures? Autrement dit, l'Afrique a-t-elle des outils pour protéger les avoirs de ces États? Dernière question, la Guinée recevra dans quelques jours la visite d'une haute autorité de la Commission européenne qui vient concrétiser un don de plusieurs millions d'euros au titre de récompense pour la bonne organisation de la dernière élection présidentielle. Question, à quelle priorité l'État devra-t-il le destiner? Nous attendons vos réactions au téléphone. Vous appelez de l'étranger 00 33 1 55 07 58 00 et puis en France, le téléphone est le 01 55 07 58 00.
D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses.
Oui, bonjour amis du JDA.
Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et
bonjour Richard, bonjour Eugénie.
Informé sans déformer, jugé sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Et nous commençons ce JDA avec le professeur Yves Ekwe-Maizo. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes à Vienne, c'est bien l'Autriche, hein?
C'est ça.
Consultant international, expert auprès de l'Union africaine. Les dernières attaques de l'OTAN sur la Libye sont de plus en plus précises. Est-ce que vous pensez qu'on vise personnellement le guide libyen Muammar Kadhafi?
La réponse est oui, puisque vous savez maintenant que dans le concept général d'ingérence, il y a ce qu'on appelle les attaques ciblées. Les opérations ciblées, d'ailleurs c'est le mot qu'a utilisé le président Obama pour le cas de Ben Laden. Donc il y a comme ça des cas, et je pense que le cas libyen, il s'agit d'avoir ciblé. D'ailleurs les dernières attaques étaient faites, seulement ça a raté. Sinon vous aurez eu deux informations, celle de Ben Laden et celle du Libyen. Donc oui, la réponse est celle-ci. Je ne pense pas que ce soit le cas par contre que du cas de la Côte d'Ivoire.
Alors, tenter d'assassiner un président africain aux affaires, est-ce que ce n'est pas violer indirectement la Convention de Genève qui traite de la guerre?
Vous avez entièrement raison, ça viole toutes les conventions, celle de l'Union africaine elle-même, celle de l'ONU, la charte de l'ONU, le droit d'ingérence est autorisé dans des cas très très particuliers, et beaucoup plus que ça, toutes les conditions humanitaires, le fait qu'on protège ses ressortissants français, etc., n'ont pas fonctionné, ça va même très loin, puisque... Au fond, on n'a même pas eu de réunion du Conseil de sécurité pour le cas de la Côte d'Ivoire. Bon, on l'a eu pour le cas de la Libye. Et donc, il y a vraiment une violation. Alors, ça pose un problème de fond pour quand il y a des violations, quels sont les moyens que le droit international permet d'organiser. Et là, on a un problème sur les Africains.
Alors justement, quelle devrait être la position des Africains et des intellectuels face aux événements en cours sur le continent? Et concernant ces frappes chirurgicales, ces frappes ciblées de l'Occident dans certaines régions du monde et notamment en Afrique?
Je vais être très précis. Alors, sur les intellectuels, c'est facile. La plupart des intellectuels, si vous lisez bien, qu'on le veut ou non, globalement, ils sont contre. Et ce sont les intellectuels, ils ont le droit, ils vont analyser, ils comparent. Donc, je laisserai de côté ce positionnement, puisque c'est un positionnement intellectuel, ils ne sont pas aux affaires. Je reprendais seulement le cri que Adama Ba Konaré du Mali nous a lancé, la grande historienne. Par contre, ceux qui sont au pouvoir, prenons l'Union africaine par exemple, on a un autre problème. C'est-à-dire que vous avez l'Union africaine qui, en huis clos, d'après nos informations, aurait quand même dit non à cette guerre. Malheureusement, les trois représentants, Afrique du Sud, Gabon et puis Nigeria, ont voté pour. Donc, c'est-à-dire l'Afrique a choisi de voter pour la guerre. Il faut le dire clairement. Maintenant, il y a eu beaucoup de nuances ici et là, qu'il ne s'agissait pas d'attaquer individuellement un chef d'État. Bon, toutes ces nuances sont, disons, ce que j'appelle d'habitude des promesses, qui d'ailleurs n'ont pas été tenues dans la plupart des cas. Regardez l'humiliation qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc, je ne pense pas que c'était pour ça, d'autant plus que c'est pour des intérêts qui ne sont pas affichés aujourd'hui. Donc, on a un problème entre une décision qui est prise au niveau des chefs d'État africains, à huis clos, encore une fois. Donc, il n'y a pas moyen d'aller vérifier ce qu'ils ont dit entre eux, et ce qui se dit maintenant au niveau des Nations Unies, qui a permis, en fait, de faire la guerre sur le territoire africain et qu'à ce moment-là, tout le monde y va comme il veut. Et d'ailleurs, quand on a demandé à Jinping de revenir sur Paris, il a refusé d'y aller pour bien montrer que d'abord, ils n'étaient pas d'accord, c'est pas ce qu'ils ont voulu. Les Africains ont voulu la paix, ils voulaient une négociation. Et d'ailleurs, ils sont partis dans cette... Ils ont même fait des décisions dans ce sens-là. Et sur ce plan-là, je crois qu'il faut pas jeter le bébé et l'eau. Mmh. La position africaine, celle qui a été faite sur le sol africain, elle était contre la guerre. Celle qui a été faite en dehors du sol africain, c'est-à-dire l'ONU, elle était pour la guerre. Et là, la responsabilité de Zuma, du Gabonais qui est représenté et de Nigeria est quand même relativement engagée. Malheureusement, écoutez, allez savoir comment faire respecter les décisions de l'UE à l'extérieur.
Mmh. Alors vous êtes, je le rappelle, expert auprès de l'Union africaine concernant le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire. On a vu l'Union africaine engager des solutions, mais c'était assez faible. Et l'Union africaine est assez critiquée. Elle s'est bien condamnée, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ?
Il faut d'abord comprendre une chose toute simple. 30% en gros, c'est les Libyens qui mettaient l'argent à l'Union africaine. L'autre 30%, un peu plus, c'est pareil que les fonds volontaires, c'est essentiellement l'Union européenne. Et donc, les Africains eux-mêmes ne mettent pas d'argent à l'Union africaine. Mmh. C'est d'abord ça le problème.
Donc, ils ne mettent pas d'argent à l'Union africaine. Donc, c'est pas eux qui décident.
Des instructions et que ces institutions puissent fonctionner. Donc, c'est très important, ça, parce que c'est ça qui détermine tout. Parce que si vous pouvez pas aller parler en votre nom propre en tant qu'Africain et que c'est quelqu'un d'autre qui va parler en votre nom parce qu'il paye, ben, écoutez, ça donne des résultats comme ça. C'est-à-dire qu'on va négocier, faire la palabre, telle que je dis, elle n'est pas souvent très intelligente, et elle donne des résultats que vous connaissez.
Alors, comment ça se fait que ce soit l'Union européenne qui finance l'Union africaine ?
Au chef d'État. Enfin, s'il y a un continent où il y a beaucoup de richesses, hein, il suffit de prendre les pays pétroliers à eux tout seuls, ils peuvent arriver à tout faire financer. Il faut reconnaître, sans citer les États, certains États avaient proposé même de tout payer. On le sait même dans le cas du Fonds monétaire africain ou certaines structures financières, mais certains pays ont rejeté cette proposition-là. Et on préférait que l'argent vienne de l'extérieur. Écoutez, ce n'est pas seulement une histoire de l'Union africaine. Hein. Beaucoup d'institutions africaines fonctionnent sur cette base-là. Donc ne vous étonnez pas après que la décision soit difficile sur le plan des valeurs africaines, des intérêts de l'Afrique. Parce que ce n'est pas l'Afrique qui finance. Alors maintenant, il faut poser la question. Ces chefs d'État qui ne mettent pas l'argent, mais regardez bien la réalité, prenez dans le cas du Népad, combien sont-ils à accepter le principe de la démocratie, de la vérité des urnes ? Et surtout quand les États extérieurs viennent défendre des contre-vérités des urnes de manière flagrante. Donc vous avez une Afrique qui est coupée en deux, une partie qui est souvent plutôt minoritaire, qui essaie quand même de faire avancer ce que veut le peuple africain, et puis vous avez une autre qui défend des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple africain.
Dans quelques instants, nous donnerons la parole à Maître Malik Diakité, qui est avocat au barreau de Conakry, analyste politique, mais avant, la parole aux auditeurs, c'est le principe de ce JDA, je vous passe Gérard. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour Madame Eugénie. Votre sujet est si intéressant que je salue la franchise de votre invité là qui vient de parler, l'expert de l'Union africaine. Il a tout détaillé. Donc je pense que tout le problème est là. Si l'Union africaine ne peut pas se financer, ne peut pas être financée par les pays africains, là nous sommes foutus. C'est-à-dire que nous dépendons financièrement des autres, donc de la décision des autres. Donc tout le problème effectivement est là. Alors la deuxième chose, si nous souhaitons, si quelques pays au moins sont contre l'intervention de la France ou de l'Occident en Libye, ceux qui sont contre, pourquoi ne rompent-ils pas la diplomatie en place ? Pourquoi ne mettent-ils pas, enfin, ils n'interrompent pas tout de suite la diplomatie avec la France ? Je pense que c'est un acte qu'ils devraient poser pour justifier leur mécontentement face à ça, parce que si nous ne savons pas faire, Madame Eugénie, tous nos pays africains vont être détruits avec ça, parce que il suffit de dire nous avons eu le mandat de l'Union du Conseil de sécurité pour aller intervenir au Gabon, pour aller intervenir au Bénin, mais ça va être du désordre. Donc je pense que les pays africains, au lieu de se cacher, les dirigeants, hein, au lieu de se cacher derrière une contestation banale ou simple, devrait vraiment poser le pas en disant bon, nous rompons la diplomatie avec vous, un point, un trait, si vous ne sortez pas de là, nous arrêtons tout de suite.
Merci Gérard de votre appel. Professeur Yves Ekouamaïso.
Écoutez, je remercie beaucoup Gérard, et deux points que je retiens de son intervention, très juste d'ailleurs. La première chose sur l'Union africaine, comment fait-on pour voir de l'argent ? Mais l'Union africaine a proposé, on a proposé des financements alternatifs. Comment ça fonctionne ? Écoutez, on met des taxes sur les importations, il faut bien sûr cibler les importations, on peut pas, si quelqu'un veut faire un tracteur pour aller faire son champ, on va pas quand même le taxer sur quelque chose qui crée de la valeur ajoutée. Mais il y a beaucoup d'importations de luxe, par exemple, qui ne servent strictement à rien en Afrique, ou qui servent quelques gens qui sont très riches. Si on met des taxes dessus, vous pouvez arriver à trouver trouver un moyen pour faire tourner l'Union africaine sans qu'il y ait aucun problème. Vous savez que la CDAO fonctionne sur cette base aujourd'hui. Mmh. Voilà pourquoi des pays qui avant étaient complètement en retard tout le temps, ne payaient pas, se retrouvent même en excédent, comme le Togo ou d'autres. Donc, on a des systèmes de financement alternatif pour trouver et pour faire en sorte que l'argent de l'Union africaine soit l'argent des Africains. Je vous informe d'ailleurs que le Fonds monétaire africain, c'était une décision unanime de tous les Africains de refuser de l'argent qui vient de l'extérieur. Alors, sur le deuxième point, la rupture des diplomatiques, alors c'est plus complexe. La rupture quand même a eu lieu, regardez le cas du Rwanda, la Gambie. La Gambie a refusé, par exemple, de reconnaître Alassane Ouattara. Donc, il y a des gens qui font la rupture. Seulement, ce n'est pas collectif. Et là, vous avez entièrement raison, M. Gérard, parce que il y a un problème de fond sur la façon de voter au niveau de l'Union africaine. Ce n'est pas démocratique. Il faut lever pratiquement à main levée pour qu'on sache qui a dit quoi, quelle est la position de qui, parce que la position de Gambie, elle est partagée par beaucoup de gens. Malheureusement, on repart dans les négociations et quand on comprend rien, on va chercher les sages là, ou bien les évêques et les ecclésiastiques, pour aller regarder si tout le monde se porte bien et faire un travail de santé qui revient en fait à la Croix-Rouge ou à des médecins. Vous voyez ? Donc on a un problème de fond sur cette Afrique-là, ou ces dirigeants africains qui posent problème. C'est pour ça d'ailleurs je souhaiterais, et quand vous parlez, dites toujours qu'il s'agit en fait du silence des chefs d'État africains, pas
le
des
silence
africains.
Des chefs d'État
Beaucoup
africains.
Des Africains ne sont pas du tout contents.
Nous allons continuer avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Allô Mohamed, est-ce que vous m'entendez ?
Bonjour.
Je vous écoute.
Oui, je vous remercie. Alors moi j'interviens dans le sens que moi je considère que la forme qui est appliquée en ce moment, des opérations qui sont destinées à aller à bombarder le régime en place, tuer des gens comme ça, la veiglette, je trouve que c'est une forme de criminalité qui ne dit pas son nom. On a souvent dit Union africaine, et le rôle de l'Union africaine a été souvent, très souvent dénoncé, mais n'oublie pas que tout ça c'est l'Occident qui est à la base de tout, parce que l'Occident, ils mettent le feu, ils mettent le contre-feu. Vous voyez, l'argent, parce que pour financer les institutions africaines, ils sont prêts à le faire. Mais pour empêcher les dirigeants qui sont pourris, qui volent l'argent de leur pays pour venir le stocker dans leur banque, ben, ils font rien contre. Et quand les choses commencent à se déclencher, on dit oui, c'est un dictateur, c'est un magouilleur, c'est un corrompu, mais il faut le dégager. Alors qu'au moment où ils volent l'argent, ils sont au courant, ils le savent. Et tout ça, c'est de leur jouer, ça les arrange. C'est une façon de dire que on laisse leurs dirigeants voler, après quand ils sont chercher du pouvoir, ben, nous, on se rendra du côté de ceux qui le chassera, et on dira ensuite que ces dirigeants, c'est des pourris. Alors, ça, c'est la même chose. L'argent qui est volé, ça peut financer. Pourquoi cet argent qui est volé, qui est stocké dans les banques européennes, il n'est pas destiné à financer des institutions africaines? Pourquoi on soit autonome? L'autre chose, la Ligue arabe, qu'est-ce qu'ils font? Les Arabes, ils ne sont pas aussi unis. Ils sont contre les unes des autres. L'Arabie Saoudite, il ne dit rien. L'Irak, il est mis à genoux, cassé par morceaux fragmentés. Personne ne dit rien. Afghanistan, on est plein là-dedans. Quand Obama envoie des avions avec, soi-disant, les drones, tous les jours qu'il tue les innocents, dans les cérémonies de mariage, dans des mosquées, on bombarde des familles, et personne ne dit rien. Et après, on dit que c'est les autres qui sont des criminels. Mais eux qui tuent tous les jours des innocents, personne n'est là pour dénoncer. Moi, je n'ai jamais entendu un intellectuel qui dénonce ces gens des agissements. Tous les jours, on entend à la radio, les Américains, ils ont bombardé tel lieu, mais actuellement, les drones, ils interviennent en Libye. Et ils interviennent pour faire quoi? Pour tuer les Libyens. Et les gens qui mènent la guerre, sont des gens des rebelles aujourd'hui en Libye, ces gens-là, les jours que Kadhafi va tomber, c'est pas ces gens-là qui vont gouverner. Juste, on se sert de eux. Et le jour que Kadhafi va tomber, on dira que oui, c'est juste des pions, on s'est servi d'eux. Mais aujourd'hui, on a tué Ben Laden, c'est pareil. On s'est servi d'eux pour fâcher Kadhafi. Mais il faut trouver des gens qui feront l'affaire de l'Occident. Donc, le problème, c'est toujours la même chose. On prend des gens pour des bétails, on fait ce qu'on veut d'eux. Donc, le problème aujourd'hui, c'est un problème global. Il faut que tout le monde se réveille, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la Ligue arabe. La Ligue arabe aujourd'hui, personne n'est capable de dire quoi que ce soit. Tout le monde est sourd. On n'entend personne. L'Égypte, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, alors même le Bahreïn, je ne parle même pas. Et là, qui participent à tous ces magouilles-là pour attaquer les autres. Mais c'est fini. Il faut que les gens, tout le monde se réveille.
Merci Mohamed.
Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
C'est le principe du JDA, je vous rappelle, la parole est aux auditeurs avec des spécialistes qui nous éclairent sur l'actualité africaine et internationale. Alors passons la parole à Maître Malick Diakité qui est à Conakry en Guinée. On parlait d'argent, professeur Yves Ekwe Amaïzo, vous faisiez état de certains pays qui ont refusé l'argent de l'Occident. La Guinée va recevoir dans quelques jours la visite d'une haute autorité de la Commission européenne qui vient concrétiser un don de plusieurs millions d'euros au titre de récompense pour la bonne organisation de la dernière élection présidentielle. Alors, on se rappelle du nom de Sékou Touré, à De Gaulle. Aujourd'hui, la Guinée accepte cet argent. À quelle priorité l'État devra-t-il le destiner, Maître Malick Diakité? Allô? Maître Malick?
Merci, monsieur.
Oui, allô? Madame.
Merci, monsieur. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Je m'appelle Eugénie. Maître Malick Diakité.
Le professeur Alpha Condé disait qu'il a arrêté d'un pays et non d'un État. Alors, c'est vous dire, vraiment, ce qui est à faire en Guinée. Donc, il y a des chantiers qui sont, comme vous le dites, c'est ça. En premier lieu, je situerai, étant l'invité, la communauté de l'FNC de l'Ocura, l'application du secteur privé fonctionne à intermittence. Du fait du défaut d'électricité. L'enfer des bénéficiaires se trouve actuellement à la porte de la Guinée et je crois que leur exigence première pour installer ici à la faute de l'électricité.
Alors, on a du mal à vous entendre, Maître Malick Diakité. Est-ce que vous êtes vraiment face à votre combiné ou alors à votre portable, si on vous appelle d'un portable? Allô? Alors, je vais plutôt aller en direction de Vienne, en Autriche. Nous avons du mal à vous entendre, Maître Malick Diakité, c'est dommage. La question, professeur Yves Ekwe Amaïzo, c'est que c'est donc cette autorité de l'Union africaine, le commissaire européen donc au développement, qui sera en visite vendredi prochain en Guinée-Conakry, et il vient remettre de l'argent frais à ce pays, donc la Guinée-Conakry, pour saluer le bon déroulement de l'élection présidentielle. Est-ce que la Guinée a les moyens de refuser cet argent, professeur?
C'est une question double. La première, c'est vous savoir comment fonctionne l'Union européenne pour les pays africains. En tout cas, il y a des budgets, des enveloppes budgétaires qui sont là pour soutenir les pays. Et si possible, il y a des conditionnalités qui sont liées, en gros, à la démocratie.
Quelles sont les conditionnalités?
À la démocratie, le bon déroulement des élections, etc. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas non plus voir l'Union européenne comme ça en l'air. Derrière l'Union européenne, il y a des États. Mmh. Et donc, si vous avez sur ce fonds qui va en Guinée 90% de l'argent qui vient de la France, vous comprendrez que le côté des liens ou des conditionnalités non écrites aujourd'hui vont venir de la France et non pas de l'Union européenne. Mmh. Donc, il faut comprendre ça. La deuxième chose, quand on parle de dons, quand on va dans le détail, le mot don, très souvent, devient
c'est
du crédit.
Un don.
Ça devient souvent du crédit. Oui. Il va falloir rembourser. Donc il faut beaucoup faire attention à cela, parce que ce remboursement, le pays qui est derrière peut aller le prendre directement. C'est-à-dire, on vous fait un hôpital, c'est un don, mais demain, on va prendre l'argent pour cet hôpital-là, et surtout en Guinée, justement, et ça peut venir directement de l'accès directement aux matières premières, ou, conditionnalité politique, on vous demande de rentrer dans le franc CFA, qu'on pourra demain dévaluer. Alors, vous savez, toutes ces choses sont beaucoup plus complexes pour répondre en quelques minutes.
Bien sûr.
La troisième chose qui est très importante, il faut savoir que même un don, ce qu'on croit gratuit, peut générer de l'endettement, peut générer de nouvelles formes de conditionnalité politique. C'est-à-dire qu'on vous dit, on vous donne ceci, cela, mais n'allez pas soutenir, par exemple, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ou ce qui se passe en Libye, ou ce qui se passe ailleurs. Mmh. Donc, tous ces problèmes-là vont ensemble. Mais ce qu'il faut surtout retenir, et je pense que ce que vous peut-être maître voulait dire, vous avez dit, comment l'affecter? L'affecter, on n'a pas de gros problèmes. Vous savez, beaucoup de Guinéens sont de grands intellectuels qui ont déjà préparé beaucoup de choses pour soutenir le programme de l'un ou de l'autre, que ce soit M. Diallo ou Alpha Condé. En fait, ce qui se passe, c'est que ces affectations, qu'on fasse attention de les mettre dans des secteurs productifs. Il faut que ça puisse créer de l'emploi. Je viens de faire une grande conférence en Bruxelles où on démontre que sur 30 ans, nous avons créé de la richesse. Nous sommes à 5% de croissance en moyenne en Afrique. Mais nous ne créons pas d'emploi. Et beaucoup plus grave, l'emploi dans l'informel. Ce n'est pas des emplois qui nous rendent meilleurs en termes de productivité, par exemple. Mmh. Et quand nous allons faire faire des partenariats, nous oublions de le faire avec des gens qui vont nous soutenir et qui sont dans les mêmes domaines que nous. C'est très important toutes ces choses. Nous acceptons le principe de la sous-traitance. C'est qui pose vraiment un problème de fond. On ne peut plus continuer à fonctionner sur cette base-là. D'où les nouveaux concepts de trilatéralisme, de coopération triangulaire, Chine, Afrique, et très précis. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on accepte et qu'on dise aux Chinois que nous allons pouvoir fabriquer du lait dans nos capitales, à Conakry, et pour distribuer aux populations.
Des auditeurs, Dixon, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, oui.
Je vous écoute.
Oui, oui, bonjour, Maman Génie.
Bonjour.
Donc, moi, je voulais dire ce que l'Union européenne est en train de faire. Quelquefois, ils font des choses qu'on n'est toujours pas d'accord. Mais cette fois-là, j'entends qu'ils veulent geler l'argent des dictateurs.
Oui.
Mais la question que je vais poser, Maman Génie, pourquoi ils gèlent toujours l'argent des dictateurs quand ils sont plus au pouvoir? Hein? Parce que... Hein? Remarquez, par exemple, je vais vous donner un exemple d'un président africain comme, je vais citer son nom d'ailleurs, hein, qui est en place là, au Congo démocratique, Kabila. Il est arrivé là avec la guerre et tout ça. Aujourd'hui, hein, on entend parler de sa fortune personnelle s'élève à 8 milliards de dollars. Pendant que les fonctionnaires, ils sont impayés avec des 50 dollars, des 20 dollars, des 30 dollars. Alors, ces communautés européennes, est-ce que tout ça, ils voient ça ou pas? Je suis sûr qu'ils savent. Mmh. Mais pourquoi ils ne réagissent pas?
Pourquoi ils ne prennent pas des mesures, justement?
Au pouvoir, ah bon, on va geler son argent. Est-ce que ça, ils veulent aider l'Afrique ou pas?
Merci. Mmh? Merci, voilà. Dixon.
Merci à vous, madame.
Serge, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Et il est parti. Hpong, j'espère que je prononce bien. Il appelle des États-Unis.
Oui. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Maman Génie.
Je vous écoute.
En fait, j'ai appelé pour intervenir sur l'Afrique. Ce que je me demandais, pourquoi à chaque fois que l'Union et soi-disant la communauté internationale gèle les avoirs de nos dictateurs, dirigeants dictateurs, pourquoi ces avoirs, on ne les révèle pas dans les pays? C'est la question que je veux poser. Et de deux, ce que je voudrais vous demander aussi. On a des pays en Afrique où aujourd'hui la démocratie vit, comme exemple le Ghana. Moi, je demande pourquoi des émissions comme la vôtre, on ne fait pas la promotion de ces pays. On ne lève pas les débats sur ces pays. Aujourd'hui, le Ghana est un pays pratique. Le peuple vit, tout évolue. Donc, moi, ce que je demandais, pourquoi tout le temps se baser sur les pays où il y a la guerre, où il y a le conflit, faire toujours la promotion des conflits en Afrique, pendant qu'il y a d'autres pays qui vivent en Afrique, qui se développent, qui prennent la démocratie. Comme je prends par exemple encore le Ghana et le Mali.
C'est une bonne suggestion que vous nous faites. Je la prends en compte. Merci de votre appel. Monsieur Konaté.
Oui, bonjour,
je
madame.
Vous écoute, oui.
Ouais, bon, moi j'ai rebondi sur le, comment on appelle ça, des dirigeants, hein, ceux qui disent que les Occidentaux. Mais madame Eugénie, moi je vous dis que c'est nous-mêmes, nous les Noirs. C'est pas les Occidentaux. Regardez-moi un pays comme la Côte d'Ivoire. Déjà, on se divise entre nous là-bas. Quand quelqu'un vient s'aimer le tout dans ton foyer, c'est sorti de votre foyer. Parce que si vous êtes bien soudés dans votre maison, il n'y a personne qui va venir vous emmerder chez vous. Mais les gens qui viennent au pouvoir, au lieu de mettre une bonne réforme en place, faire le bon répartissement, comment on appelle ça ?
La répartition
des ressources. Il y a des mecs qui sont là, ils forment des clans et ils s'enrichissent. Et après, ils s'étonnent qu'on ne veut pas d'eux. Et après, quand on dit qu'ils n'ont qu'à sortir du pays, ils disent ouais, c'est les Occidentaux. C'est ça le problème. Sinon, comment comprendre qu'un président qui a été bien élu par le peuple et qui dirige bien son peuple ou son peuple, bon, on ne peut pas dire tout le monde, mais où la majorité du peuple vit tranquillement avec une bonne répartition des richesses, comment les Occidentaux pourront venir nous inquiéter?
Merci. Monsieur Konaté, professeur Yves Ekwe-Amaïso, est-ce que vous pourriez répondre à tous ces auditeurs? Je note le coup de gueule de Mohamed également. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à tous ces auditeurs en deux minutes, on va dire.
Deux minutes. Écoutez, d'abord, il ne faut pas faire d'amalgame. Tout État a le droit d'ouvrir un compte à l'extérieur et tous ces comptes-là ne sont pas nécessairement des biens mal acquis. C'est la première chose. Donc, ces comptes-là servent à l'État.
Alors, c'est un État ou c'est des présidents?
Non, non, des États. Il y a des États. L'État ivoirien, l'État togolais a des comptes dans la plupart des institutions, là où ils font des affaires, et ils ont le droit de mettre les comptes comme vous et moi. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qui se passe au niveau local, s'il y a une partie de cet argent est pris de manière privée, ce qui sort du port de Lomé, si ça va directement dans la capitale de la présidence et ça tombe dans les poches privées, il n'y a personne pour le vérifier, et qu'à ce moment-là, ça part sur d'autres comptes, qui n'est pas le compte de l'État, on aura du mal à vérifier ces choses-là. Par contre, quand ça vient sur ces comptes comme en Suisse, et que demain matin, avant, pendant ou après la mort du dictateur ou de l'individu, ces comptes sont gelés ou sont bloqués, ben on a du mal à les récupérer. Maintenant, il y a un deuxième problème, dans le cas justement de cette histoire de bien mal acquis, c'est une nouvelle technique pour geler, bloquer, neutraliser l'ensemble de ces comptes-là. Sachez d'ailleurs que chaque fois qu'on suspend, qu'on gèle, il y a des opérations, des marges qui sont prises, 10, 15, 20%. Mmh. Donc ces comptes sont vidés assez régulièrement. Mais ne vous trompez pas là-dessus. Quant à l'exemple de Ghana, Côte d'Ivoire, c'est très très bien dit par l'interlocuteur. Le Ghana a 13,5% de croissance cette année, alors que la Côte d'Ivoire a moins 7,5%. Donc vous voyez bien que c'est un problème de vase communicant. Il ne faut pas seulement parler que du Ghana, parce que quand le cacao ne va pas, beaucoup viennent le vendre d'ailleurs au Ghana, parce que on gagne plus d'argent, c'est privatisé. Le gel des avoirs, quand on le dit, mais on peut geler de manière justifiée, droit de l'homme, etc., ou démocratie. Mais qui c'est qui fait la contre-vérité des urnes souvent et qui soutient, qui légitime? Là encore, on a un problème de fond. Donc vous voyez, c'est un problème global. Moi, je résumerai comme ça, puisqu'il y a quelques minutes, pourquoi ces chefs d'État n'ont pas investi en Afrique? Pourquoi ils n'ont pas investi dans les peuples? Pourquoi ils n'ont pas créé des hôpitaux, des industries pour les populations? Parce que même si ça a été pris par les populations, ça reste en Afrique. Pourquoi ça doit partir à l'extérieur? Voici le fond de tout l'ensemble du problème. Et là, je crois que si c'est vrai qu'il faut dire que des dirigeants sont fautifs et responsables, c'est ce qu'a dit le troisième interlocuteur, il faut aussi rappeler que l'Africain que nous sommes nous-mêmes, nous sommes aussi un peu responsables, parce que nous aimons la petite corruption, nous nous taisons sur les impunités, nous laissons tomber quand le voisin a des difficultés, nous nous organisons pas sur les activités sociales et les syndicalismes, parce que les chefs de beaucoup de syndicats africains, ils vont travailler pour le pouvoir, sont même ministres dans certains pays. Vous voyez, le problème est quand même des répartitions et des responsabilités partagées.
Merci professeur Yves Ekwe-Amaizo, consultant international, expert auprès de l'Union africaine. Nous étions en direct avec lui depuis Vienne en Autriche. C'est la fin de ce JDA. Merci de l'avoir écouté. À demain.